On reprend donc au chapitre 5. Il est donc question d'un païen, d'un non-juif dans ce passage-là. Deux rois, chapitre 5. Et je lirai en deux fois le texte. Je vais lire d'abord jusqu'au verset 19. Deux rois, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » « Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Élisée lui dit, va en paix. Jusqu'ici donc pour le moment, on reprendra à partir de ce verset 19 tout à l'heure. Et donc j'ai intitulé mon message « La foi en action » comme titre, et comme sous-titre, eh bien j'y ai mis « Un païen sauvé ».« Un païen sauvé ».« La foi en action, un païen sauvé ». Et comme vérité centrale que j'ai formulée d'après ce message, c'est celle-ci. « Dieu agit en réponse à la foi agissante des serviteurs humbles. » Dieu agit en réponse à la foi agissante des serviteurs humbles. Et donc je verrai cela en 3 points. Mon premier point, ça sera que la foi agissante prend l'initiative. Mon deuxième point, ça sera que la foi agissante, elle s'humilie et elle obéit. Et troisièmement, nous verrons, avec aussi la deuxième partie du texte, le salut est gratuit et s'obtient par la foi. Voilà donc Naaman. Naaman, c'est le général en chef du roi de Syrie. C'est donc un homme important, un homme qui est considéré. C'est même un héros qui est couvert de gloire et de distinction. Et c'est facile de s'enorgueillir avec un tel CV. Mais, comme le dit un commentaire, son bel uniforme cache la misère de son corps. Il est lépreux. Mon premier point, c'est que la foi agissante prend l'initiative. Ce récit démarre d'une petite fille. Une petite fillette. Encore une histoire, on voit que les enfants sont présents dans le livre des rois et dans l'histoire d'Élisée. Une histoire avec des enfants, la dernière fois c'était, on a vu le fils de la Tsunamite. Et cette fois, cette histoire démarre avec une petite fille. Toute l'histoire part du témoignage d'une petite messagère de la bonne nouvelle. Une fillette juive, une captive, donc capturée par les Syriens, une fillette juive captive, on ne connaît même pas son nom. Et elle est juste mentionnée au début du passage, après on ne revient plus sur elle. Pourtant, tout part d'elle, de cette petite fille. Elle prend l'initiative de parler à la femme de son maître c'est Naaman, elle va prendre l'initiative de parler à la femme de son maître, comme quoi eh bien, le prophète Élisée, c'est un puissant homme de Dieu en Samarie, eh bien, c'est ce prophète qui pourrait débarrasser Naaman de sa lèpre. Et là déjà, mais quelle foi on remarque chez cette fillette. Parce que quand on considère ce qu'elle a fait, Naaman n'était pas juif comme elle. Et Dieu va honorer sa foi. On voit aussi une compassion chez cette fillette. Quelle compassion chez cette fillette qui est captive de ce général, Naaman, qui est quand même ennemi de son peuple. Quelle compassion chez cette fillette envers cet ennemi de son peuple. Et on voit aussi le courage. Quel courage chez cette fillette pour oser parler d'Élisée, le prophète de son peuple, à la femme de Naaman. Trois caractéristiques qu'on trouve chez cette fillette. La foi, la compassion, le courage chez une petite fille. Alors, eh bien, ça va faire son chemin. La femme de Naaman, eh bien, elle va prendre l'initiative d'en parler à son mari, Naaman. Et Naaman va prendre l'initiative d'en parler à son maître, qui est le roi de Syrie. Il a dû se dire, Naaman, mais après tout, pourquoi ne pas y croire ? Je n'ai rien à perdre. Et Naaman, il va agir dans ce qu'on peut appeler un début de foi balbutiante et agissante. Naaman va agir dans un début de foi balbutiante et agissante, et Dieu va honorer sa foi. Et on voit quoi dans ce passage-là ? On voit que la foi, elle est contagieuse. Tout part de cette petite fille qui a eu la foi. Et on voit comment sa foi, eh bien, elle a agi, elle a témoigné, et sa foi, elle est contagieuse. Elle s'est transmise, puisque la femme de son maître l'a écouté, son maître l'a écouté, et son maître va en parler au roi. Une fois donc qu'il a fait son chemin, qui est parti de cette petite fille. Et donc, eh bien, le roi de Syrie, au courant du... il a entendu cette annonce, eh bien, il va envoyer alors une lettre à qui ? Non pas à Élisée, il va envoyer une lettre au roi de Syrie. Il va envoyer une lettre au roi d'Israël, par l'intermédiaire de Naaman, pour que le roi d'Israël guérisse Naaman. Et Naaman, il va y aller avec un plus que somptueux cadeau, en or et en argent, verset 7, c'est le cadeau d'un roi pour un autre roi. Et il pensait que le roi d'Israël pourrait guérir Naaman de sa lèpre. Alors voilà donc, on fait la lecture de cette lettre du roi de Syrie au roi d'Israël. Et apparemment, Élisée n'est pas mentionné dans cette lettre. Apparemment. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le roi d'Israël, il déchire ses vêtements. Il se met en colère. Et pour cause. Il sous-entend par là qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, et donc il ne peut pas guérir Naaman de sa lèpre. Il ne peut pas délivrer Naaman de sa lèpre. Et là, chez le roi d'Israël, on peut reconnaître une certaine humilité. Il ne se prend pas pour Dieu, et on peut même reconnaître une certaine foi, puisqu'il croit que seul Dieu peut guérir Naaman de sa lèpre. Humilité et foi. Mais ça s'arrête là, chez le roi de Syrie. Ça s'arrête là. Aucune initiative, parce qu'il connaissait Élisée, aucune initiative pour envoyer Naaman chez un prophète du vrai Dieu, qui plus est Élisée. Et le roi d'Israël soupçonne même un piège de la part du roi de Syrie. Alors, eh bien, Élisée, il apprend que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. Et il lui propose de lui envoyer Naaman. Donc, Élisée propose au roi d'Israël de lui envoyer Naaman, pour qu'il sache qu'il y ait un prophète en Israël, verset 8. Et vous avez remarqué, Élisée ne va pas se déplacer en personne lui-même, mais il va envoyer à Naaman un messager. Pour lui dire quoi ? Pour lui dire de se laver 7 fois dans le Jourdain. Déjà, Élisée, il n'est pas important, Élisée. Alors bien sûr, c'était un grand prophète en Israël, mais ce n'est pas lui le plus important. Le plus important, c'est la parole qu'il véhicule, c'est la parole de Dieu qu'il véhicule. Élisée, il n'y va pas lui-même, hein. C'est la parole de Dieu qu'il véhicule qui est agissante. La parole de Dieu à laquelle il suffit de croire et qu'il suffit de mettre en pratique. C'est ça le plus important. C'est pas Élisée en lui-même. Qu'est-ce qui va se passer ? Mon deuxième point, donc, eh bien, la foi agissante, non seulement elle prend l'initiative, mais la foi agissante, elle s'humilie et elle obéit. Naaman est indigné que Élisée ne soit pas venu en personne. Quand même, lui, le général en chef de l'armée du roi de Syrie. Et Naaman, il attendait une sorte de rite magique de la part d'Élisée. Il attendait une gestuelle de sa part sur sa plaie avec une invocation du nom de l'Éternel comme pour tout autre Dieu. Est-ce que ce n'est pas souvent comme ça que les gens attendent, considèrent Dieu comme quelqu'un de par magie. Ils attendent de régler leurs problèmes comme par magie. Au lieu de quoi ? Au lieu de se soumettre à la parole de Dieu. Et Naaman raisonne. Pourquoi tout ce voyage depuis la Syrie ? Après tout, son pays, la Syrie, est rempli de fleuves qui sont bien mieux que le Jourdain. Et donc Naaman, il repart en furie. Tout de même, lui, le général en chef de l'armée syrienne, homme très important, venu en grande pompe avec ses richesses sur son char. Voilà comment il est reçu par Élisée, qui ne s'est même pas déplacé. Alors, Naaman, il n'avait pas qu'une seule maladie. Et le théologien Moody le fait remarquer que Naaman, en fait, il ne souffrait pas d'un mal, mais de deux maux, M-A-U-X, dont il avait besoin d'être guéri. Premièrement, bien sûr, c'est sa lèpre. Et le deuxième, c'est son orgueil. Deux maux dont il avait besoin d'être guéri. Arrêtons-nous sur la lèpre. La lèpre, bien sûr, elle ne touche que quelques personnes. Il y a encore des lépreux aujourd'hui. Et la lèpre, dans la Bible, c'est une image, souvent c'est une image du péché. Le péché qui, lui, a touché tout le monde, même les personnes les plus influentes. La lèpre n'a pas épargné Naaman. Et le péché n'épargne personne. Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, nous avons péché. Et c'est intéressant de comparer la lèpre avec le péché. La lèpre se répand dans tout le corps. Eh bien, le péché se répand jusqu'à atteindre toutes les fibres de notre être, pas seulement notre corps, mais aussi notre esprit. La lèpre devient de plus en plus grave, elle se répand si on ne la soigne pas. Naaman avait besoin d'en être débarrassé totalement. Il fallait que la lèpre quitte son corps. D'en être débarrassé, c'est l'expression qu'a utilisée la fillette au verset 3. Eh bien, comme la lèpre, nous avons besoin d'être débarrassés de notre péché qui nous colle à la peau. Pourquoi ? Pourquoi la mort sur terre ? Eh bien, la Bible répond, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Voilà pourquoi tout le monde meurt, c'est la preuve que tout le monde a péché. Et puis, une autre comparaison entre la lèpre et le péché, eh bien, le roi d'Israël reconnaissait qu'il n'était pas Dieu pour guérir Naaman de sa lèpre. Eh bien, nous-mêmes, on ne peut pas s'enlever notre péché, nous-mêmes, par nos bonnes actions, par nos bonnes œuvres, par nos efforts, par nos richesses. On ne peut pas. Seul Dieu peut enlever notre péché. Autre point de comparaison, la lèpre, c'est une maladie contagieuse qui isole des autres. La loi de Moïse demandait à ce qu'un lépreux crie, impur, impur, pour que les gens s'éloignent de lui à son approche, pour ne pas être contaminés. Vous trouvez ça en Lévitique 13, 45. Eh bien, le péché, il est aussi contagieux. Le péché nous isole aussi des autres. Soit parce qu'on a honte d'avoir agi ou parlé de telle ou telle manière, et on a peur. On a peur du regard des autres. On a peur d'être jugé. Soit on fait soi-même fuir les autres à cause d'un sale caractère, d'un mauvais trait de caractère. Ça peut être l'orgueil, ça peut être une colère mal gérée. Le péché nous isole des autres, comme la lèpre. Et nous avons besoin d'en être débarrassés. Alors Naaman, il repart en colère. Mais les serviteurs vont l'exhorter à revenir et à obéir simplement à ce que lui demande le prophète Naaman, le prophète Élisée, pardon. Même si ça lui semble absurde et même trop simple, une telle injonction de te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain, ça lui semble absurde et trop simple. Mais Naaman, eh bien, il finit quand même par s'exécuter, par obéir. Et certainement que Naaman, la lèpre, c'est une maladie qui est terrible. Certainement que Naaman, il avait le désir très fort d'être débarrassé de sa lèpre, d'être purifié de sa lèpre. Il n'avait rien à perdre, donc il finit par s'exécuter. Alors, eh bien, il se trempe une première fois dans le Jourdain. Pas de résultat. La lèpre est toujours là. Une deuxième fois, la lèpre est toujours là, pas de résultat. Ça ne suffit pas. Non. Le prophète a dit de s'y plonger 7 fois. Naaman croit et il obéit à la parole de l'Éternel. Il se plonge 7 fois dans le Jourdain. Et au miracle, il redevient pur. Il est guéri. Plus de traces de lèpre sur sa peau, qui est redevenue comme celle d'un jeune enfant, nous dit le texte. Il a une peau de bébé. Il fut pur, verset 14. Il fut pur. Il a obéi à quelque chose de très simple, au final. Alors, au début, c'est l'orgueil de Naaman qui l'avait empêché de croire à la solution du problème. Trop simpliste de se tromper 7 fois dans le Jourdain. Et aujourd'hui, de tout temps, beaucoup trouvent le salut en Jésus-Christ seul, trop simpliste. C'est trop facile. Mais Dieu ne demande pas à l'homme de grandes choses. Les grandes choses, c'est lui qui les a accomplies. Lorsque son fils Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité, il est mort pour nous laver complètement, complètement de nos péchés. Alors, qu'est-ce que Dieu nous demande à nous ? Il nous demande à nous de croire, de lui faire confiance. Comme Naaman devait croire à la parole de Dieu pour être guéri de sa lèpre. Croire à la parole de Dieu et faire ce qu'elle dit. Alors effectivement, pour nous tous pécheurs, eh bien, cela passe par se reconnaître souillé par le péché. Et pour en être purifié, eh bien, aller se laver par la foi dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Qui a été versé pour nous à la croix. De même que Naaman avait besoin d'être purifié de sa lèpre, nous avons tous besoin d'être purifiés de nos péchés, de notre péché. Et est-ce que nous avons le désir d'être totalement purifiés de nos péchés aussi fortement que si nous étions lépreux, que si nous voulions être débarrassés de la lèpre, comme Naaman avait ce fort désir d'être débarrassé de sa lèpre? Est-ce que nous avons ce fort désir d'en être totalement débarrassé de notre péché, comme Naaman avait le fort désir d'être débarrassé de sa lèpre? Eh bien, c'est possible. C'est possible par la foi en Jésus. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7, nous dit « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Tout péché. Il n'y a pas de péché trop grand ou trop petit que Dieu ne puisse pardonner. Il a versé son sang pour cela. C'est possible. Par la foi en Jésus. Naaman, donc, eh bien, il est guéri. Imaginez sa joie d'avoir été purifié complètement de sa lèpre. Quand on imagine la vie d'un lépreux, isolé, Eh bien, lui, guéri, il va pouvoir le dire à tous ceux qu'il aime et de qui il devait garder sa distance, sa famille, ses amis. Mais avant cela, il a une autre priorité, Naaman. Il tient à retourner vers l'homme de Dieu pour le remercier et remercier Dieu. Il y a une histoire qu'on ne va pas prendre aujourd'hui, mais je vous donne la référence. Ça nous rappelle en tout cas les 10 lépreux que Jésus a guéris et un seul est retourné voir Jésus pour lui dire merci. C'est dans Luc, évangile de Luc 17, verset 15. Est-ce que nous pensons à remercier Dieu chaque jour pour son salut dont nous bénéficions en Jésus-Christ? Est-ce que nous pensons à le remercier? Voilà une autre source de joie, de nous rappeler tout ce que Dieu a fait. À commencer, enfin, principalement son salut. Alors cette fois, Naaman retourne voir Élisée, et cette fois, Élisée, il ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. Élisée, il reçoit Naaman personnellement. N'oublions pas que Naaman, c'était aussi un étranger, un Syrien. Mais Naaman, il a changé. Il n'est plus aussi arrogant. Il reconnaît le Dieu d'Israël et d'Élisée comme le seul vrai Dieu. Il le reconnaît comme son Dieu, personnellement. Naaman s'est converti au vrai Dieu. Naaman, il a compris aussi, c'est pas Élisée qui l'a guéri, c'est le Dieu d'Élisée. Et il reconnaît qu'Élisée n'a été que l'instrument du vrai Dieu, le serviteur du vrai Dieu. Élisée est un serviteur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Naaman, il va devenir lui-même un serviteur. Il s'est humilié. Et d'ailleurs, il s'appelle lui-même, il dit à Élisée, ton serviteur. Il s'appelle lui-même le serviteur du prophète, verset 15. Quel changement! Il est beaucoup question de serviteur dans ce passage, parce que c'est la parole des serviteurs de Naaman. Un serviteur, il est habitué à obéir. Regardez quand même, ils ont eu du courage et de la foi. C'est la parole des serviteurs, habitués à obéir, qui a convaincu Naaman d'obéir au prophète. C'est la parole des serviteurs qui a contribué à faire de Naaman un homme, lui qui était déjà qui était un homme important. Eh bien, c'est la parole des serviteurs qui a contribué à faire de Naaman un serviteur, lui aussi un serviteur, mais un serviteur du vrai Dieu. Et un serviteur, il sait dire merci. Alors Naaman, il veut remercier Élisée en lui offrant les cadeaux qu'il avait apportés avec lui, verset 15. Mais Élisée refuse catégoriquement, fermement, malgré l'insistance de Naaman. Déjà dans ce refus d'Élisée, voyons chez Élisée une manière de se démarquer des faux prophètes si fréquents en Samarie. Lui, il n'a pas pris d'argent. Il voulait rendre toute la gloire à Dieu. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, en refusant l'argent de Naaman, Élisée a refusé son argent. Naaman devait apprendre que le salut, il n'est pas seulement simple, mais il est aussi gratuit, entièrement gratuit. C'est mon troisième point, le salut est gratuit et s'obtient par la foi. Naaman, donc, puisque Élisée refuse ses présents, eh bien c'est Naaman qui va faire une requête. Il fait même deux demandes à Élisée. Il veut ramener de la terre d'Israël en Syrie. Il veut une charge de 2 mulets de la terre d'Israël à emmener avec lui, verset 17. Alors, je me suis interrogé, pourquoi il voulait ramener la terre d'Israël avec lui? Certainement pour se rappeler que c'est là, en Israël, que le Dieu d'Israël l'a guéri. Et qu'il veut, c'est ce Dieu qu'il veut adorer exclusivement. C'était certainement pour lui rappeler ce qui s'était passé, sa guérison. Nous aussi, est-ce que nous nous rappelons là où nous avons rencontré le Seigneur? C'est tellement bon de se rappeler lorsque le Seigneur est venu nous chercher. Sa première requête, ramener de la terre d'Israël avec lui. Deuxième requête, que Dieu lui pardonne. Que Dieu lui pardonne lorsqu'il se prosternera avec le roi dans le temple du dieu païen des Syriens. Naaman, il était très proche du roi, il devait faire comme lui. Et Naaman demande à ce que Dieu lui pardonne. Que lui dit Élisée? Il lui dit, va en paix, verset 19, et Élisée le quitte. Et là, voyons dans la réponse d'Élisée, va en paix, voyons-y une marque de la grâce de Dieu envers un nouveau converti. Naaman, c'est un nouveau converti. Et c'est pas évident de, comme ça, du jour au lendemain, de tout abandonner, ce qui déplaît au Seigneur. Donc il a besoin de la grâce de Dieu. Eh bien, pour nous aussi, et aussi pour les jeunes chrétiens, voyons-y aussi la patience et la grâce de Dieu envers quelqu'un qui se convertit à Jésus-Christ. Et qui sait, il sait qu'il a beaucoup de choses à régler dans sa vie, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais il sait qu'il ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Il a besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu donne sa grâce. Ça peut être, parmi les choses à changer, ça peut être une situation familiale difficile. Ça peut être une situation financière difficile. Ça peut être une situation professionnelle difficile. Dieu sait. Et Dieu est fidèle. Pour nous aider à régler nos problèmes. Oui, c'est un récit qui nous parle bien de la grâce de Dieu. Envers Naaman, un jeune, et aussi bien sûr envers nous, Naaman c'était un général syrien qui était ennemi de Dieu et d'Israël. Naaman c'était un païen qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu, donc étranger à son alliance. Naaman ne pouvait prétendre à aucune promesse de bénédiction parce qu'il n'était pas juif. Et qui plus est, il était lépreux. Donc il était doublement impur, Naaman, doublement, ce qui n'a pas empêché Dieu d'agir. Le salut de Dieu envers ce non-juif, eh bien, il préfigurait la venue de Jésus-Christ. Pour nous tous, aussi bien non-juifs que juifs, nous tous qui n'étions pas dans une meilleure situation que Naaman. Si nous lisons Éphésiens, chapitre 2, versets 11 et 12, je vous le lis, voilà notre situation, s'il n'y a pas de personne d'origine juive dans la salle, en tout cas. Éphésiens 2, 11 à 12. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est comme ça que nous étions. Nous ne connaissions pas Dieu. Et c'est comme ça qu'était Naaman. Non, Naaman, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait simplement s'humilier et croire à la parole de Dieu pour être purifié gratuitement de sa lèpre. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Tout à chacun qui s'humilie et qui croit personnellement à l'œuvre de Jésus-Christ, à la croix, pour lui, il est sauvé et il est purifié de tout péché. C'est non seulement simple pour nous, mais c'est aussi gratuit. C'est un cadeau. Jésus est ce cadeau. Un cadeau, c'est un don. Et un don, par définition, c'est gratuit. Mais il y a un verset où il est bien dit « don gratuit » pour bien insister. Parce que parfois on est, et moi aussi, je suis lent à comprendre, mais regardez, je relis Romains 6, verset 23, que j'avais commencé à lire tout à l'heure. Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est gratuit. Un don, c'est déjà gratuit. Le don gratuit, il est gratuit. Rien à y rajouter. Malheureusement, et ça va être la suite du texte, Guérasi, le serviteur d'Élisée, eh bien, il risque de tout gâcher à cause de son amour de l'argent. En faisant croire à Naaman que le don de Dieu, il est payant. Voyons la suite du texte. On reprend à partir du verset 19, donc, où je m'étais arrêté. Et là, il est question de Guérasi. Un contre-exemple, hein, à ne pas imiter. Je reprends le verset 19, hein, lorsque Élisée dit à Naaman, va en paix. Élisée lui dit, va, vous y êtes ? Deux Rois, chapitre 5, verset 19. Élisée lui dit « Va en paix ». Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Guérasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Guérasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre deux talents. Il le pressa et il serra deux talents d'argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange et les fit porter devant Guérasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Guérasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Guérasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Guérasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre, comme la neige. Amen. Jusqu'ici, donc, la parole de Dieu. Voilà donc Guérasi qui voit partir Naaman avec les richesses qu'il avait apportées, puisque Élisée a tout refusé. Et il est frustré, Guérasi. Il est frustré qu'Élisée a tout refusé, les cadeaux de Naaman. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre aussi une initiative. L'initiative de rattraper Naaman pour en récupérer quelques cadeaux. Naaman descend précipitamment de son char et demande « Tout va-t-il bien ?»« Tout va bien. » Qu'est-ce que fait Guérasi ? Il ment. Il prétend qu'Élisée demande que Naaman lui donne des cadeaux, un talent d'argent et deux vêtements de rechange pour deux fils des prophètes qui lui auraient soi-disant rendu visite. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, Élisée n'a pas fait cette requête. Alors Naaman, lui, il est plein de reconnaissance, il propose deux talents d'argent. Un talent, ça faisait 50 kilos quand même. Hein. Deux talents d'argent, et au lieu d'un, et deux vêtements. Et donc Naaman fait porter, par l'intermédiaire de deux de ses serviteurs, donc à Guérasi. Et Guérasi les reçoit de leurs mains et les cache dans sa maison, ses cadeaux. Et voilà que Guérasi se présente devant Élisée. Élisée qui a tout vu. Et qui demande « D'où viens-tu, Guérasi ?» Mensonge, encore un mensonge de Guérasi. « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. » Les mauvaises actions non confessées finissent toujours par venir à la lumière. Surtout, lorsqu'on prend Dieu à témoin. Comme c'était le cas pour Guérasi. Vous avez remarqué ce qu'a dit Guérasi, verset 20 ? L'Éternel est vivant. Élisée aussi, il a eu cette remarque dans sa bouche. L'Éternel est vivant. Élisée a fait ça pour accomplir la guérison de Naaman. Guérasi reprend, il a entendu cette expression, il reprend la même expression. L'Éternel est vivant. Pour faire sa mauvaise action. Lorsqu'il s'est proposé de soutirer quelques cadeaux à Naaman, il a menti. Guérasi, tout serviteur d'Élisée qu'il était, il ne connaissait pas le Dieu d'Élisée comme son Dieu personnel. Il ne connaissait pas le Dieu d'Élisée comme étant Dieu de vérité, comme étant Dieu de justice, comme étant Dieu qui fait grâce. Alors que quand même, Guérasi, il a été témoin de tous les miracles d'Élisée. Il a été témoin de la guérison du fils de la résurrection du fils de la Tsunamite. Et puis surtout, Guérasi a été témoin de la guérison de Naaman. Il l'a vu. Il ne connaissait pas Dieu personnellement. Guérasi, lui aussi, il a pris une initiative, mais ce n'était pas l'initiative de la foi qu'on a vue au début. Ce n'était pas l'initiative de la foi. Parce que l'initiative de la foi, elle sait aussi bien recevoir que donner. Naaman, il a reçu le salut, la guérison de sa lèpre, et il a voulu donner en retour. Ça, c'est là. L'initiative de la foi. Guérasi, il a pris une toute autre initiative, c'est l'initiative qui prend par ruse. L'initiative qui prend par ruse. Élisée, qui a tout vu, lui demande, est-ce le temps de prendre argent, vêtements, vignes, oliviers, bétail, serviteurs, verset 26. Élisée, qu'est-ce qu'il avait, lui ? Il n'avait que le manteau que Élie lui avait donné. Prendre par ruse ou par force, c'est tout le contraire de la foi qui compte sur Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? 1 Timothée 6, verset 17. Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu ne nous frustre pas. Il veut nous donner en abondance. La foi, elle reçoit et elle donne. Contraire de la foi, ce qu'a fait Gehazi, il a convoité, il a menti, il a pris. Et plus grave, il a fait croire à Naaman que le don gratuit de Dieu, de la grâce de Dieu, n'était pas gratuit, en faisant payer Naaman. Tout ça en prenant Dieu à témoin. L'Éternel est vivant. Résultat, la malédiction prononcée par Élisée sur Gehazi s'accomplit. La lèpre dont Naaman a été débarrassé retombe sur Gehazi et ses descendants pour toujours, verset 27. Beaucoup d'enseignements dans ces textes. Principalement, eh bien, ce n'est pas le temps. Est-ce le temps de prendre ? Demande Élisée. Aujourd'hui, où nous sommes dans les derniers temps, ce n'est pas le temps de nous dépenser à chercher à nous enrichir, nous fatiguer à nous enrichir. Ce n'est pas le temps de nous enrichir, puisque Dieu nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ce n'est pas le temps de nous dépenser dans la recherche des richesses dans ces temps qui sont les derniers. Alors comment utiliser notre temps si Dieu vous a sauvé ? Eh bien, une bonne manière d'utiliser notre temps, c'est de rendre témoignage à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de parler de lui, d'imiter cette fillette. Il n'y a pas d'âge pour témoigner de l'Évangile. Il n'y a pas d'âge. Même les enfants le peuvent. Il suffit d'y croire. Même les personnes inconnues et auxquelles on n'attache pas d'importance, ce n'est pas une célébrité, lui ou elle, même les personnes inconnues, mais qui ont la foi, peuvent influencer le cours de l'histoire des personnes, des parfaits inconnus. Puisque, qu'est-ce qui s'est passé ? Un général puissant et proche d'un roi païen, il s'est converti suite à la foi agissante d'une petite fille dont on ne connaît même pas le nom. Alors évidemment, lorsqu'on témoigne, lorsqu'on évangélise, peut-être ça vous est arrivé, on peut tomber sur des personnes qui ne refusent ou qui se moquent de nous. C'est trop simple ce que tu me dis là. Comment réagit Élisée ? Lorsque Naaman s'est fâché suite à sa demande de se plonger cette fois dans le Jourdain. Élisée n'a pas cherché à le retenir, il a voulu partir, il est parti, il l'a laissé partir. Eh bien, croyons que lorsque nous essuyons un refus, Dieu peut se servir de quelqu'un d'autre pour prendre le relais et convaincre la personne. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le récit avec les serviteurs de Naaman. Ce n'est pas Élisée qui a rattrapé Naaman, ce sont ses serviteurs. Ses serviteurs, tous serviteurs qui étaient, ils ont osé eux aussi prendre l'initiative de la foi. En exhortant, plus que cela, hein, c'est presque un ordre, fais ce que le prophète t'a dit, le serviteur qui parle à son maître. Fais ce que le serviteur t'a dit. Il fallait du courage pour le faire. Ils l'ont fait. Et Élisée, il a été convaincu. Verset 13. Comme quoi, eh bien, la parole de foi de simple serviteur, aussi insignifiant soit-il aux yeux du monde, peut changer le cours de l'histoire. Que nous faisons partie de ces serviteurs. Amen. Je vais prier. Oui, Seigneur, merci parce que tu n'as pas fini de nous étonner, Seigneur, avec ces récits. Tu peux faire beaucoup avec peu, Seigneur, ce que nous considérons parfois comme insignifiant. Toi, tu t'en sers, Seigneur, tu t'en sers pour faire ton œuvre parce que tu veux que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alors, Seigneur, garde-nous de rechercher notre propre gloire, mais qu'on cherche toujours, Seigneur, à la tienne, dans ce que nous faisons, parfois dans l'ombre. Merci pour tout ce qui se fait, Seigneur, dont on ne soupçonne même pas, toutes ces bonnes œuvres qui sont faites en ton nom, Seigneur, pour te faire connaître, pour témoigner de toi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que toutes ces actions, eh bien, tu t'en sers pour faire connaître Jésus, Seigneur. Oui, nous ne sommes que des serviteurs, aide-nous à nous considérer comme tels, Seigneur. Et merci encore parce que tu fais de grandes choses à travers la foi. Donne-nous cette foi, Seigneur. Et aussi garde notre cœur, Seigneur. C'est tellement facile aussi de s'enorgueillir de nos succès comme Naaman, Seigneur. Mais Seigneur, garde notre cœur et que nous te rendions toujours gloire, Seigneur, en regardant à toi, en voyant tout ce que tu fais, Seigneur. Merci de nous utiliser, de cette grâce que tu nous fais de nous utiliser. Oui, tu peux tout, Seigneur, tu peux tout, avec peu. Merci pour la grâce de nous utiliser. Je prie que, Seigneur, tu continues de sauver, de purifier. Quand tu sauves, c'est complètement, Seigneur. Aide-nous à nous voir, nous-mêmes et notre prochain, avec tes yeux. Merci, Seigneur. En Jésus qui a donné sa vie pour nous tous, pour nous ramener au Père. Amen.